Donc, je suis très, très heureux d'être avec vous et de partager. Je ne viens pas du tout comme spécialiste de la prière. Il y a deux manières pour parler d'un thème, deux types d'orateurs qu'on peut inviter. On peut inviter un grand spécialiste qui connaît vraiment un sujet, puis on peut inviter un orateur sur un sujet qui pédale complètement, hein, dans la semoule avec vous. Et puis, c'est aussi très intéressant parce qu'il va se mettre à votre hauteur, on va chercher ensemble, on va travailler, je vais vous partager mes difficultés, mes échecs, etc. avec la prière. Hein, voilà, on a vraiment le choix. Bon, là, vous n'avez pas le grand spécialiste de la prière. Je ne suis pas un homme de prière. Je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs endroits. Donc, je ne vais pas changer ce soir. Mais j'ai réfléchi au thème et j'aimerais vous proposer quelques pistes là-dessus. Mais pourquoi je voulais vous parler, avant le thème, un petit peu de moi, c'est que, là, juste avant d'arriver, je me suis fait piquer dans le métro ma carte d'identité et mon argent. Bon, mon portefeuille. Après, j'arrive chez Jean-Luc et Annette, Stéphane et ma femme, et on avait la visite de la commission de sécurité pour notre église. Et on a plein de projets, parce qu'on doit acheter le lieu où on est, avec un terrain, avec plusieurs projets, etc. Et on pensait pouvoir utiliser la maison sur ce terrain, et puis construire une salle de culte. On savait que tout n'était pas aux normes, et donc on devrait construire pour la salle de culte, mais que tout le reste, pour les projets sociaux, on pourrait garder l'ancienne maison. Et la commission de sécurité vient de dire à mon épouse, tout est fichu, tout, il n'y a rien à faire. Donc vous voyez, je me présente devant vous d'une manière assez vulnérable. Je me dis, on m'a piqué mon identité, enfin ma carte d'identité, mais ça touche à l'identité. Mon argent, ça touche... ma maison, mon église. Bon. Voilà. Donc j'ai tout perdu, c'est bien, le Seigneur va pouvoir commencer à m'utiliser. Voilà. Donc je suis pas spécialiste du thème de la prière. J'ai perdu les trucs. Ça tourne dans ma tête. Là, je suis un petit peu ailleurs. En me disant, tiens, si on va rien pouvoir faire, la commission de sécurité a dit, tout est fichu. Et tu sais ce que c'est, Robert, hein, quand tu fais les trucs et qu'on te dit, c'est pas, il n'y a pas d'espoir. On peut rien faire. Voilà. Donc on va, dans ce contexte-là, écouter le Seigneur qui est bon, qui est grand et qui va nous communiquer des bonnes choses, qui va nous fortifier ensemble ce soir. Hein. Et mon propos est vraiment, dans ce que j'ai préparé sur la prière, ce que j'ai travaillé, c'est nous aider ensemble à grandir dans notre vie de prière. Je ne vais pas vous dire qu'il faut prier au minimum 4 heures par jour. Je vais pas, il n'y a pas les Coréens ce soir, c'est bien, on est tranquille. Je suis méchant. Ils vont pas nous culpabiliser. Voilà. Il s'agit pas non plus de dire vous priez pas assez, etc. Parce que si on dit ça, on peut dire oui, c'est vrai, tous on prie pas assez. Mais celui qui prie 10 heures, il prie pas assez non plus. D'accord. Donc on est tranquille comme ça, on est ensemble. Donc je vais vous partager en 3 petites étapes simplement. On va prendre quelques textes bibliques et puis je vous dirai quelques simples pensées sur ces textes bibliques et sur la prière. Une deuxième étape, on va essayer de passer à une prière pratique. On va essayer de je vais vous donner quelques images concrètes. On prendra un exemple dans la vie de tous les jours, technique, pour nous donner une aide comme ça à la prière. Et puis, une troisième partie très courte à la fin, propose un temps plus de méditation avec quelques citations de Lynn Payne. Ceux qui connaissent Lynn Payne, j'aime beaucoup, beaucoup Lynn Payne, qui a écrit un livre sur vivre sa présence et qui donne quelques pistes. Donc j'ai choisi 3 pensées de Lynn Payne, simplement qu'on fera, on va dire quoi, on va pas dire prier ensemble, on va dire écouter ensemble, voilà, on va écouter ces pensées que je dirai quelques fois et puis on entrera dans un temps plus d'écoute du Seigneur par rapport à ça pour aussi passer à une phrase pratique d'une prière différente. On va pas faire juste une réunion de prière où chacun va prier, mais je vous propose d'entrer comme dans cette présence de Dieu en troisième partie de temps. Voilà, je vous propose d'ouvrir vos Bibles ou d'écouter 3 textes dans un premier temps. Sur la prière. Alors, c'est peut-être des textes un petit peu classiques, mais que je trouvais important de relire au début de cette soirée. Tout d'abord, psaume 34, pour reposer comme ça quelques versets de la parole de Dieu. On va lire juste les versets 5 à 9. Psaume 34, à partir du verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Voilà, je propose de prendre un deuxième texte dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. Juste les versets 16 à 18. Un court texte, mais tellement parlant. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et je vous propose de le lire à l'envers. Ça ne se fait pas tellement. Hein. Rassurez-vous, je ne vais pas prendre les lettres à l'envers, parce que ça sera un peu compliqué. Mais verset 18. La volonté de Dieu à votre égard, ou à votre égard, la volonté de Dieu, c'est que vous rendiez grâce en toutes choses, que vous priez sans cesse, et donc soyez toujours joyeux. Et un dernier texte dans Romains 8, versets 26 à 27, là aussi je crois un texte assez connu de beaucoup d'entre vous. Romains 8, verset 26, on pourrait le rapprocher du texte où les disciples demandent à Jésus sa main, mais on ne sait pas prier, enseigne-nous à prier. Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Voilà ces trois textes. Alors, rapidement, quelques mots sur le texte des psaumes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez intéressant si on regarde simplement. On a l'impression que le psalmiste il pose comme ça un certain nombre de choses très claires. Psaume 34, pour ceux qui veulent le reprendre sous les yeux. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de ses détresses. L'Éternel, il affirme comme ça un certain nombre de choses très claires. Et puis, il a des choses très enthousiasmantes. Il parle de rayonner de joie, il parle de camping, hein, un ange qui campe. Oui, un ange qui campe autour de nous. C'est extraordinaire, ça. Et puis, de sentir et de voir comment l'Éternel est bon. Et je trouve que c'est déjà intéressant, ça. C'est vraiment un texte qui nous parle de la prière, hein, parce qu'il dit vraiment que lui, il a fait l'expérience, qu'il a cherché l'Éternel et qu'il l'a trouvé, que lui, il a fait appel et que Dieu a répondu, il peut affirmer ces choses. Mais il ne dit pas ça pour dire qu'il faut prier plus, il dit pour dire mais des choses extraordinaires. Il dit donc, en conclusion, mais sentez, voyez, Dieu est bon, Dieu vient camper. Dieu vient faire sa présence, Dieu délivre des détresses. Et pour cela, quand il y a des cris, ben il répond et on peut rayonner de joie. Vous voyez, c'est très, très, très libérateur. Ce n'est pas du tout un enseignement dans la prière qui nous explique de plus jeûner, de plus faire d'efforts, de plus persévérer, de plus combattre. Et je pense que c'est important, parce que souvent dans les enseignements sur la prière, on peut aller très, très loin dans les sphères. Et là, je reviens vraiment très terre à terre. Parce que le psalmiste qui a expérimenté la prière et qui la connaît, il sait qu'on peut être malheureux et que Dieu nous entend. Plus que ça, qu'il nous entend, il vient camper avec nous, avec ses anges, vous vous rendez compte, hein? Et c'est lui qui fait le chemin. C'est lui, nous on crie, nous on est mal, nous on cherche, nous on fait appel, ça c'est pas compliqué. Et lui fait le boulot, c'est lui qui vient camper, qui envoie son ange, l'ange de l'Éternel, quand tu pries, vient camper vers toi. Oui, c'est extraordinaire. C'est pas toi qui va faire des grands séminaires, qui va faire reculer l'ennemi. C'est pas toi qui va engager un grand combat spirituel. Là, dans ce texte, simplement, pratique, simple, de base, c'est l'Éternel qui va venir habiter, camper vers toi avec ses anges pour être plus proche de toi parce que tu as mal, parce que tu cries, parce que tu as de la peine. Et à cause de ça, tu vas être rayonnant de joie et tu vas sentir et voir que Dieu est bon. Ça, c'est une prière, moi, qui m'enthousiasme. Voyez, je me dis, si la prière, c'est qu'à la fin d'une vraie prière, je vais avoir la conviction que l'ange va venir camper vers moi, il va venir devant ma maison, il va venir vers mon porte-monnaie perdu, il va venir dans ma situation, il va venir dans ma déprime, et il va camper, il va se tenir là. Camper, ça veut dire qu'il va se planter là. Voyez, Et puis je pourrais sentir et voir qu'il est bon. Et donc je vais rayonner de joie. Voilà une perspective de la prière que j'aime beaucoup. Alors la prière, c'est trois petits points. Et la prière, est-ce que c'est une exigence? Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est un enjeu de culpabilité sur la durée, sur l'heure? Est-ce que c'est un appel pour certains ou est-ce que c'est un appel pour tous? Est-ce que c'est pour les contemplatifs ou seulement pour les actifs? Est-ce que c'est peut-être seulement une soupape de sécurité? Un peu comme dans les psaumes, quand David et les autres psalmistes crient comme leur état d'âme. Ils répondent simplement devant Dieu tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils déballent. En tout cas, si la Bible nous invite à prier sans cesse, c'est qu'au moins ça doit devenir un mode de vie. Si la Bible nous appelle à prier sans cesse, ce n'est pas une quantité d'heures, est-ce que j'ai prié sans cesse aujourd'hui, mais c'est un mode de vie. Parce que si c'est sans cesse, ça ne peut pas être autrement qu'un mode de vie. Alors j'aimerais maintenant vous faire tout de suite un petit exercice, parce que je vais vous faire participer avant d'aller plus loin. Si je vous dis, la prière c'est, trois petits points, en un mot, pas une phrase, un mot, la prière c'est, dialogue, super, pardon, relation, la prière c'est une relation, une écoute, alors une union, une intimité, un cœur à cœur. Qu'est-ce que vous êtes spirituel? Un combat, merci. Une corvée, une gueulante. Des fois, il faut crier. Bien. Des fois, il faut engueuler Dieu même. Hein.
Un silence.
Un silence. Un rendez-vous. Une aide. Une louange. Une inspiration, respiration. Une supplication. Un soupir. Super. Une chose, plusieurs ont dit, hein, un soupir, une supplication, etc. Et parfois une gueulante, comme tu dis, quand on crie. J'ai beaucoup aimé des gens qui ont écrit, je ne me souviens plus le nom maintenant, mais qui ont passé par des camps de concentration et qui ont eu des prières vraiment cries, hein, et d'une violence terrible. Et la différence, quelqu'un disait, qui a fait entre ces prières violentes ou le cri d'un athée qui dit « Dieu, où es-tu ?» c'est que cet homme qui écrivait sur les icônes de concentration, il disait « Mais mon dialogue avec Dieu, qui s'exprimait parfois avec des cris, avec même des engueulades à Dieu, des presque de la haine contre Dieu, mais même quand c'était presque de la haine contre Dieu, c'était de l'intérieur de ma foi et non pas de l'extérieur de ma foi. » Oui, c'est ça qui est extraordinaire dans la prière. C'est qu'il disait, mais c'est même tout mon cri vers Dieu, mon incompréhension, elle était de l'intérieur de ma foi. Et elle affirmait encore plus que Dieu existe, que Dieu est là, que je ne comprends pas, que je m'engueule avec lui. C'est encore plus une affirmation, une confession de ma foi, même quand dans la prière, elle ne s'exprime que par un cri. Alors la Bible nous dit un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire dans la prière. Romains 8 qu'on a lu, qu'on dit un certain nombre de choses en négatif. Nous n'avons pas à multiplier les paroles, c'est ce que la Bible nous dit. Hein. Donc, quand tu pries, ne multiplie pas comme font les païens, c'est un autre texte qui nous dit ça, on ne va pas y venir ce soir, mais c'est un texte qui nous dit ça, ne multiplie pas les paroles. Une autre attitude qui nous est dit, nous sommes faibles, ça on l'a lu, nous ne savons pas comment prier. Alors ça c'est intéressant, parce que je suis venu à vous en disant je suis faible et moi je ne suis pas un spécialiste de la prière. Et je suis en bonne compagnie, parce que dans l'Écriture, il dit, les disciples qui ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier, c'est-à-dire on ne sait pas prier. Et puis là dans notre texte de Romains, il est dit, nous ne savons pas. C'est intéressant, hein? C'est Paul qui parle et qui dit lui-même, il explique, il fait une théologie très poussée de la prière dans ce texte, hein, et on va voir après comment il présente la Trinité au travers de cette prière, mais il commence par dire, nous ne savons pas, nous sommes faibles, nous ne savons pas comment prier. Et il est dit qu'alors, quand nous sommes faibles, peut-être que des fois nous sommes forts dans la prière, On sait quoi demander, on sait faire nos listes de courses, on sait se plaindre, on sait. Là. Bon, peut-être que le Saint-Esprit n'a pas trop besoin de venir prier en nous quand on sait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il est dit que l'Esprit vient, c'est quand nous sommes faibles. Et nous ne savons pas comment prier, alors l'Esprit vient. Moi, je pense que quand on sait comment prier, eh bien, on est rempli de nous-mêmes. Et puis peut-être que l'Esprit n'a pas trop besoin de venir. Enfin, on sait, il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu. On sait bien, hein, on peut s'adresser à Dieu. Bon, je sais comment prier, je sais que lui demander. Voilà, je peux prier. Peut-être que le Saint-Esprit est des fois un peu absent là. Mais en tout cas, il est présent quand nous disons, nous ne savons pas comment prier. Et là, l'Esprit vient aider à prier. Il vient lui-même prier en nous. Comme dans la prière du psaume, on a vu que c'est Dieu qui faisait le boulot. Et nous, on a senti et à voir qu'il est bon. C'est lui qui envoie son ange camper autour de nous. C'est pas nous qui nous envoie. Bon, ben écoute, je vais te donner un bon conseil. On pourrait penser que Dieu, il est comme ça des fois. Je suis un malheureux, je crie à Dieu. Eh ben, il va me donner du boulot. Ça sera le boulot juste au lieu que je fasse le boulot faux. Mais c'est à moi de faire le boulot. Ben, dans ce psaume, des fois, il nous envoie à faire du boulot. Mais dans ce psaume, dans cette prière, c'est lui qui fait le boulot. Il envoie un ange camper. Et là, de nouveau, dans les Romains, c'est de nouveau lui qui fait le boulot. Il dit, vous ne savez pas comment demander? Eh bien, je viens avec mon esprit prier en vous. C'est lui qui fait le boulot, et comment? Par des soupirs inexprimables, sans parole. Ça, c'est pas trop compliqué, j'ai marqué là, c'est à la portée de nous tous, même moi, qui ne suis pas un homme de prière et un contemplatif, soupirer, j'arrive. Et je pense que vous aussi. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que de nouveau, dans la prière, c'est lui. C'est lui donc qui va faire le boulot, et c'est super, c'est peut-être mieux qu'une prière très belle, puisqu'il est dit, quand tu ne sais pas, tu soupires, et le Saint-Esprit vient prier en toi. Mais c'est formidable, ça. Et alors là, il y a, pour moi, je ne l'avais jamais vu comme ça, avant de préparer cet enseignement sur la prière. J'ai mis, dans mon petit message, là, une petite figurine avec quelqu'un qui sourit. Il y a l'humour de Dieu dans ce texte. Extraordinaire. Comment il dit? Il dit, et Dieu, figure-toi, toi qui es faible, toi qui ne sais pas comment prier, toi qui ne fais que de soupirer, bien figure-toi que le Saint-Esprit, il va être compris par Dieu. C'est ça qu'il est dit. Parce que Dieu qui voit les cœurs, nous dit le texte biblique, il comprend ce que l'Esprit Saint prie en nous par ses soupirs inexprimables, parce que l'Esprit prie comme Dieu le désire. C'est quand même incroyable, ça. C'est un humour de Dieu extraordinaire. Le verset commence en disant, tu sais pas comment prier, tu pries avec des soupirs et des balbutiements, puis l'Esprit vient en toi, et Dieu, il comprend l'Esprit. Toi, il te comprend peut-être pas. Toi, tu comprends peut-être pas Dieu. Mais il y a un dialogue dans la Trinité qui se passe en moi. Vous vous rendez compte? C'est ça qui est dit dans la prière. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un bien pas possible. La prière, selon ce texte, c'est que je ne peux pas, je ne sais pas, je ne suis pas à la hauteur, je peux juste balbutier et faire quelques soupirs. Ça, j'arrive, merci Seigneur. Et dans cette attitude-là, le Saint-Esprit vient en moi, c'est lui qui prie, et comme c'est lui qui prie, Dieu peut comprendre. Vous voyez l'humour de Dieu? Je ne sais pas, vous avez quoi dans vos traductions? Moi, j'ai ça. Hein. Dieu qui voit dans mon cœur, mais il ne voit pas mon cœur, il voit le Saint-Esprit, donc qui est venu dans mon cœur prier par mes soupirs inexprimables. Et ce n'est pas marqué dans vos yeux comme ça. Dieu comprend ce que l'Esprit prie en moi. Parce que l'Esprit, il prie la même langue que Dieu le Père. C'est formidable, ça, non? Vous vous rendez compte que je n'ai même pas à me soucier si je prie bien ou si je prie assez, parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir prier. Et Dieu dit, j'agrée, je suis OK, parce que le Saint-Esprit et moi, nous sommes un, et on se comprend. C'est formidable, ça. On a juste à laisser Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, dialoguer en nous, et nous, on soupire, on respire. Voilà. C'est formidable, hein? Ça, c'est extraordinaire. C'est lui qui fait la bonne prière en moi. Et j'ai noté, voyez-vous, mes amis, entre Dieu, ils s'aiment, ils se comprennent et ils prient juste, parfaitement juste. Entre Dieu, ils se comprennent. Ce n'est pas entre deux, vous comprenez? C'est entre Dieu, le Saint-Esprit, le Père, en moi, ils se comprennent. Ça, c'est extraordinaire pour la prière. Donc, la prière, c'est un pari de confiance dans la Trinité exprimé par mes balbutiements et mes soupirs inexprimables. Vous vous rendez compte? Moi, j'avais jamais entendu quelque chose comme ça sur la prière. Alors, j'espère que ça vous fait du bien, que ça vous encourage. Si vous n'êtes pas des grands hommes de prière, des grandes femmes de prière, moi, là, je me suis dit, c'est OK, Seigneur. Moi, je suis vraiment d'accord que des temps de prière, c'est toi qui viens en moi avec le Saint-Esprit et vous dialoguez ensemble et vous faites le travail. C'est extraordinaire, ça. Juste être d'accord que mon cœur soit ouvert. Saint-Esprit, tu viens. Dieu, tu viens et vous discutez chez moi. Mais c'est extraordinaire, ça. Bon, vous pourriez discuter au ciel, vous pourriez vous passer de moi. Mais le miracle, c'est l'incarnation. C'est que Dieu veut faire sa demeure chez nous. Et ça, on l'enseigne toujours aux nouveaux convertis. Ah, ça c'est bien. Hein? Faut que tu ouvres ton cœur à Jésus. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, etc., j'entrerai chez lui. Et ça, c'est pour la prière, mes amis. Pour les grands chrétiens avancés, avec 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de foi chrétienne, c'est ce que Paul dit. Il dit, vous ne savez pas comment prier. Eh bien, le Saint-Esprit, le Père sont d'accord de venir chez toi faire la réunion de prière céleste. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Il y a une réunion de prière. Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu as un bon agenda de prière? Quel est ton âge? Je te pose la question. Eh bien, moi, je réponds. Eh bien, effectivement, j'ai une réunion de prière dans ma maison. C'est le Père et le Fils qui se rencontrent chez moi à la réunion de prière dans mon cœur. Mais vous vous rendez compte? Et ils vont prier juste. Ils vont prier bien. Et c'est juste ce qu'ils font. Leur demeure incarnée, Dieu Tout-Puissant, trois fois saint, vient faire sa réunion de prière avec l'Esprit chez moi, en moi. Ça, c'est extraordinaire. Donc, mon seul défi, c'est un pari de confiance, la prière, un pari de confiance que ce texte est vrai et que la Trinité s'invite à prier chez moi. Avec ce que je suis, avec mes craintes, mes gémissements, mais je ne sais pas prier, c'est là qu'il vient. Ce n'est pas quand je sais prier, c'est quand je ne sais pas. Avec mes soupirs et ma faiblesse, la plus belle, la plus extraordinaire réunion de prière du monde, la plus grande. Est-ce qu'il peut y avoir un combat d'intercession avec les plus grands cœurs de louange et toute l'unité du corps de Christ plus grand que le Père et le Fils qui viennent prier chez moi? Non. Et ça peut se passer dans chacun de nos cœurs. C'est déculpabilisant au possible, c'est libérateur. Et il prie la bonne prière, la prière juste, et je n'ai aucun souci à me faire. Je peux juste être rayonnant de joie, parce que Dieu envoie, quand il prie, ses anges camper dans mes situations, et je peux sentir et voir qu'ils sont bons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une petite note en passant. La prière est-elle réservée aux chrétiens? La prière est-elle réservée aux chrétiens? Dans un pays laïque comme la France, c'est une bonne question. Non? La prière est réservée à qui, mes amis? À ceux qui la font, oui, effectivement. Et il y a d'autres gens que les chrétiens qui prient? Très bien. Donc la prière, point 1, n'est pas réservée aux chrétiens, mais elle est réservée aux croyants. Vous êtes d'accord? Pourquoi croyants, non-croyants? Est-ce que les non-croyants et les païens peuvent prier? Ah ben, vous me dites non avant, maintenant tout le monde dit oui. Donc c'est pas réservé aux chrétiens la prière. C'est pas réservé aux croyants, aux musulmans, aux bouddhistes, non. C'est réservé à qui? C'est ouvert à tous? Les païens prient. Les païens ont une vie de prière. J'ai jamais entendu ça, moi. Oui, alors ça, c'est une formule. Je suis d'accord. Non, mais moi, je parle de la prière. Le Créateur, le Dieu. Moi, je pense aussi, comme toi. J'ai noté là, crier à Dieu, multiplier parfois les paroles, ou juste un appel avec un grand temps de silence, partir en quête mystique, faire un Saint-Jacques de Compostelle, même pour un laïc, etc. Tout cela est une forme de prière. Tout cela est une forme de dialogue avec Dieu, avec le Créateur. Pas besoin donc d'être chrétien. Maintenant, est-ce que Dieu entend et accueille ces prières-là? Vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous êtes large? Moi, je n'ai pas souvent entendu parler de ça. Moi, je crois aussi. Alors, on est d'accord? Donc, la prière n'est pas réservée aux chrétiens, n'est pas réservée aux croyants. Tout homme peut appeler son Créateur, faire une démarche de prière, et Dieu l'accueille, Dieu l'entend. C'est formidable, ça. Même si c'est complètement tordu. Même si dans sa culture, il a appris à faire des choses tout à fait fausses, dans sa prière. S'il s'adresse au Créateur, Dieu entend. Non, heureusement, parce que... On est d'accord. Maintenant, y a-t-il alors une prière spécifiquement chrétienne? Oui, il y en a plein d'autres que le Notre Père. Mais en quoi il y a une prière spécifiquement chrétienne qui n'est pas à comparer avec les prières des athées ou des musulmans ou des bouddhistes? Oui, pourquoi pas?
Moi, j'entends que Paul qui dit, c'est lorsque nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous pourrons recevoir notre prière de l'Esprit.
Moi, j'ai aussi noté ça. Il me semble que la prière avec la Bible, qui est, parce qu'on pourrait imaginer un musulman qui a une relation à Dieu, dans le sens qu'il prie tous les jours. Peut-être que c'est un Dieu qui n'a pas le même visage que nous, peut-être que c'est un Dieu sévère. Mais il y a comme une relation avec un Père sévère. Je peux avoir une relation. Pardon? Oui, alors Christ, c'est plus... Oui, oui, oui. Mais il me semble que la spécificité dans ce texte qu'on a lu de la prière chrétienne, c'est que le Saint-Esprit vient prier avec nous. Et comme ça, ça rejoint d'autres textes qui disent que si, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. C'est dit, mais si vos paroles, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Et je pense que prier juste pour qu'elle soit exaucée, comme vous avez dit tout à l'heure, Dieu ne va pas forcément les exaucer. C'est une prière qui est inspirée et priée en nous par l'Esprit. En tout cas, tout homme peut appeler Dieu à l'aide, tout homme peut faire des scarifications devant Dieu, tout homme peut s'ouvrir les veines, peut faire des pèlerinages, peut faire plein de choses. Mais seulement l'Esprit Saint peut nous guider dans une prière complètement apaisée de relation où c'est lui qui vient prier en nous. Ça, c'est formidable. D'ailleurs, il est dit ailleurs, tu n'as pas besoin de multiplier les paroles, et vous savez ce qui est dit après, parce que ton Père sait, parce que ton Père voit, comprend l'Esprit. Oui? Mais nous sommes, cette filiation, c'est parce que nous sommes nés de nouveau par l'Esprit. C'est encore le Saint-Esprit. C'est encore le Saint-Esprit. Mais tout à fait, c'est juste. Voilà. Alors voilà pour ma première partie. On a fait un rapide tour, vous avez vu, pour le résumé. C'est vraiment l'idée de dire que la prière chrétienne est extraordinairement unique, différente de toutes les autres prières, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient prier en moi, avec le Père. Et c'est libérateur. Et comme ça, je peux sentir et voir qu'il est bon, qu'il fait le boulot, je peux avoir toute confiance et être libéré de cela, et c'est vraiment une relation. Deuxième partie que j'aimerais partager avec vous, c'est, j'ai pris un exemple concret, pratique, technique, pour nous aider dans un renouvellement, j'aimerais dire, de notre vie de prière. Donc déjà libéré, parce que c'est lui qui vient prier en nous. Puis après, il y a comme des prières de louange, des prières d'intercession, des prières de pardon, il y a différents types de prières dans lesquelles moi aussi je peux m'engager. Alors je vous propose de prendre l'informatique. Ça va pour prier, non? C'est bon? Ça va? J'ai pris cette image-là de l'informatique. Et on va voir, avec les différents aspects de l'ordinateur, pour renouveler notre vie de prière. Voilà. Alors, première prière que je vous propose, c'est le scan-disc. Vous connaissez le scan-disc? Il y a deux, trois férus d'informatique, non? Tout. Rassurez-vous que ceux qui commencent à avoir peur en étant chez venus à une réunion sur la prière, là, vous allez me parler de technique en informatique, s'il vous plaît, au secours. Vous verrez, même les plus ignares en informatique, vous allez tout comprendre. Hein. Mais ceux qui connaissent un peu plus pourront peut-être encore nous donner quelques pistes, quelques idées, quelques paraboles. C'est une parabole. En fait, Jésus prenait des paraboles avec la vie des gens. Il prenait des moutons, il prenait des chèvres, il prenait la vigne, etc. Aujourd'hui, je vous prends votre ordinateur, c'est quelque chose que vous avez tous. Donc voilà. Une parabole. Donc, scan disque. C'est une sorte de scanner du disque, comme quand vous allez au médecin, on vous fait un scanner, hein, à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on vous scanne la tête aux pieds, comme ça, on regarde tout. Bon, on peut faire qu'une partie, mais scan total, scan disque, on vérifie. Est-ce que quelqu'un aurait l'idée de la prière scan disque, un exemple biblique? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Hein? Sonde-moi, ô Dieu, scanne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie ou sur une bonne voie, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Extraordinaire, scan disque super. Alors, est-ce que c'est, là, c'est pas la conclusion d'un psaume, non?
Non, c'est le psaume 42.
C'est pas le psaume 139? Hein? Le psaume 139, scan. Oui. Et ça, dans la base de données, voilà, la base de données. Et on a commencé à la fin de ce psaume pour se dire, scan disque, première chose qui nous vient, c'est vrai que c'est souvent ça qui sort, hein? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mais si on va, est-ce que c'est, alors scan disque, comment il se passe dans la prière? Regardez David, on va essayer comme ça de mémoire de citer ce psaume. Seigneur, tu connais tout de moi. Tu connais quand je me lève, quand je m'asseye, quand je me couche. Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends en bas, tu y es. Si je veux faire autre chose, t'y voilà. Tu connais tout de moi, Seigneur. Tu pénètres de loin toutes mes pensées. C'est pas un scanner, ça? Tu pénètres de loin toutes mes pensées. Regarde, si je suis sur mauvaise voie, conduis-moi, sonde-moi. Ah oui, cette prière extraordinaire de David, qui est tellement sentez, voyez que Dieu est bon. Soyez rayonnant de joie, priez sans cesse tout le temps, soyez là, mais c'est un scan extraordinaire. C'est pas un scan qui va vous découvrir des maladies. C'est pas un scan qui va vous angoisser. C'est Seigneur, je m'ouvre devant toi dans la prière. Ah super, prière scan disque. Seigneur, tu vas passer ton rayon lumineux sur toute ma vie. J'ai rien à cacher. Je peux être en toute confiance, en toute liberté. Et Seigneur, si j'ai des péchés cachés, je ne veux pas. Je les expose à ta lumière. Et je sais que tu vas m'aimer. Rien n'est caché devant toi. Si je veux cacher un péché, mais tu le sais déjà. Et en plus tu m'aimes. Si je le cache, ça te fera peut-être de la peine. Donc, prière scan disque. Aucune crainte, aucune culpabilité. Je suis ouvert de la tête aux pieds, chacun de mes cheveux doit être ouvert devant toi. Extraordinaire comme prière. Ça, moi, ça a renouvelé ma prière. Mais je vais faire un scan disque ce matin, Seigneur. Est-ce que tu te rends compte? Tu vois mes craintes? Tu vois mes doutes? Tu vois que je me suis peut-être engueulé avec mon voisin, que j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû avec mon épouse. Tu vois peut-être que hier, j'ai eu une impatience avec mon conseil d'ancien, il m'énervait. Je n'ai pas une attitude, il y a de la colère. Tu vois qu'aujourd'hui, j'ai un souci pour demain, j'ai eu ça. Seigneur, tu sais tout de moi. Mais scanne-moi. Scanne-moi. Envoie cette lumière qui va tout filtrer. Et si tu vois quelque chose de bon, détruis-le. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, guéris-le. Si tu vois quelque chose qui est tordu, redresse-le. C'est extraordinaire. Vous savez, il n'y a aucun scanner humain qui peut vous guérir. Aucun scanner humain, il pourrait. Ça serait extraordinaire. Si on passe le scanner, il arrive sur un truc, ah là, il y a un os qui est un peu tordu, tiens, on va le remettre. Ah, tiens, là, il y a une cuisse, on va le remettre. Ah, ça serait extraordinaire. Là, il y a un début de cancer du foie, tiens, on va le guérir. Ça, vous imaginez la joie d'avoir un scanner comme ça? Eh bien, c'est le scanner de Dieu, il est comme ça. Non seulement il ne rate rien, il vise tout. Et il guérit et il corrige tout en même temps qu'il le voit si je le laisse faire. Et vous imaginez cette prière extraordinaire, sans culpabilité aucune, complètement ouvert, sans rien garder, sans rien fermer. Alors bien sûr que ça veut aussi dire que je pardonne à ma belle-mère, que je pardonne à mon employeur, parce que j'ouvre tout. Il n'y a pas un chakra qui reste fermé. Tout ouvert. Tout. Je lâche tout. Si je dis non, Seigneur, ça je garde. Ça je ne peux pas pardonner. Ça je veux continuer. Je ne veux pas écouter mon pasteur. Ça je ne veux pas faire. Non, tu ne peux pas me demander. J'accepte pas le scanner de Dieu. Le scanner, c'est tout ouvert. Et ça guérit et ça restaure et ça nettoie. Extraordinaire. Comment on peut se priver de ça? Il n'y a aucune critique. Aucun jugement, c'est le temps de la grâce. Comment refuser un tel scanner? Prière, scan disque. Un deuxième sorte de prière. Alors, défragmentation du disque. J'en ai cinq. Hein. J'en ai cinq. On est à la deuxième. Défragmentation du disque. Ah, ça, pour ceux qui ne comprennent pas tout, c'est, je dis à ma manière, hein, moi je ne suis pas non plus un grand spécialiste, mais j'ai beaucoup aimé ces paraboles que le Seigneur m'a enseignées. Je crois que c'est de lui, parce que voilà. Défragment du ciel, c'est quand les choses sont un peu embrouillées, complexes. Vous savez, dans l'ordinateur, quand on fait la défragmentation, vous avez peut-être fait déjà, il y a plein de petites couleurs, toutes sortes de couleurs, puis elles sont toutes mélangées, et puis il veut les rassembler, mettre tous les rouges ensemble, tous les bleus ensemble, ça, puis après ça marche mieux, ça allège l'ordinateur, c'est un peu plus facile. Avant on le faisait souvent, maintenant on le fait moins, hein, les défragmentations. Oui, c'est fini. Hein, c'est plus, ouais, voilà. Mais pour la prière, c'est encore nécessaire. Donc quand les choses sont complexes dans nos vies, et moi, pour moi, pas pour vous, ça dépend comment vous êtes formé dans votre tête et dans vos émotions. Pour moi, les pensées sont souvent embrouillées, complexes, ça me fatigue, j'ai de la peine à voir le pour et le contre de chaque chose. Là, par exemple, quand on doit trouver des lieux, on a visité au moins 10 ou 15 maisons pour l'église, on fait la liste à 10 personnes de tous les avantages et tous les inconvénients. Quand vous avez fini ça, vous êtes très fatigué et vous ne savez plus du tout ce que vous devez choisir. Donc, quand vous êtes comme ça dans vos vies, peut-être par rapport à votre travail, est-ce que je dois arrêter le travail, est-ce que je dois reprendre le travail, est-ce que voilà, etc. Pour les jeunes aussi, est-ce que je dois vivre telle relation avec telle copine, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est limite, est-ce que je dois arrêter telle piste, etc., etc. Une dé. On a même la radio avec nous. Peut-être que le Seigneur veut nous dire quelque chose. Écoutons. Pour remettre de l'ordre nécessaire et indispensable dans nos vies, Dieu nous propose la défragmentation du disque. Et avant, en tout cas, maintenant, s'il y a des ordinateurs qui le font automatiquement, il n'y a plus besoin de faire. Mais avant, il fallait le faire régulièrement. Et c'était jamais fini. Jamais fini. On ne peut pas dire, voilà, j'ai fait la défragmentation de mon disque. Hein, et c'est fait. C'est fait pour quelques jours, on va dire. Quelques semaines au mieux, mais il faut revenir toujours, toujours, toujours. Et dans nos vies, c'est la même chose. Voilà une prière formidable. Seigneur, défragmente mon disque. Réunis ce qui est dispersé, qui est embrouillé, qui est compliqué, qui est complexe. Dieu voit des fois tellement... Vous savez, mes pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu voit des fois tellement d'un autre gars. Voilà une deuxième prière très utile. Hein? Après le scan total, ben voilà. Il y a des choses à défragmenter, il y a des choses à réorganiser dans ma vie. Mais c'est extraordinairement libérateur. Là aussi, je lui dis, Seigneur, mais tu viens à moi pour remettre des connexions que j'ignore, mais qui font que c'est complexe pour moi, qui font que c'est compliqué pour moi, dans l'église, dans la relation, dans la famille. Combien de fois des choses compliquées dans la famille ? Dieu peut défragmenter le disque. Dieu peut réorganiser les choses, déplacer les choses. Si je le laisse faire ça, vous rendez compte, avec mon travail, avec ma relation de couple, avec ma difficulté avec ma copine, avec mes maladies, mes tensions, mes dépressions, mes surexcitations, selon les caractères des uns et des autres. Seigneur, défragmente, réorganise tout ça. Une prière extraordinaire. Troisième image informatique, parabole. Alors, il y a toujours besoin, l'antivirus, l'antispam. L'antivirus et l'antispam spirituel, ça c'est une prière utile. Vous vous rendez compte, quand les pensées, pour nous les hommes peut-être en particulier, quand les pensées impures, Seigneur, vaccine-moi de ton antivirus. Extraordinaire ça. Vous savez, des fois je dis au Seigneur, mais par rapport aux hommes, que de tentations comme dans notre monde, hein. Que de tentations, tu pourrais pas enlever un peu ces tentations ou nous faire réagir un peu moins à telle ou telle belle image ou image tendancieuse, etc. C'est une bataille, c'est quand même une lutte, c'est compliqué. Tu pourrais pas... Puis le Seigneur nous répond, mais c'est extraordinaire la sexualité. Tu es fait pour être attiré par des femmes et que des femmes t'attirent. C'est bien, je ne vais pas casser ça, je ne peux pas casser cette dynamique-là qui est extraordinaire, qui est magnifique. Mais un petit antivirus comme ça, une petite piqûre d'antivirus par rapport aux pensées impures. Tu gardes ton envie de sexualité, tu gardes tout ce que tu as envie de beau, d'agréable, de charmant, de tout. Mais Seigneur, donne-moi ton antivirus sur l'impureté. Et plein d'autres domaines, hein, j'ai pris celui-là, mais plein d'autres. Par rapport à l'égoïsme, Seigneur, ton antivirus, ça c'est une prière. Seigneur, je suis égoïste, terriblement égoïste, comme chrétien. Mets-moi ton antivirus contre l'égoïsme, contre l'impatience, enfin on peut faire une longue liste, contre la méchanceté, contre la bêtise, etc. Seigneur, des antivirus pour toutes ces choses. Dans la prière, je peux les recevoir, Seigneur, mais vaccine-moi. Et puis les anti-spam alors, hein, les anti-spam, ça. Qu'est-ce qu'on a envahi de mails non sollicités, etc., etc. Alors c'est embêtant avec l'ordinateur, parce qu'on a des mails qui sont bons, qui passent dans les spams, et on a des mails qui devraient être dans les spams et qui sont dans la boîte. Embêtant ça, hein. La distinction, elle n'est pas toujours facile à faire entre les spams et puis les bons mails, hein, parce que vous avez quelqu'un qui vous envoie une communication, par exemple, à 300 adresses. D'entrée, il y a certains anti-spams qui disent, parce qu'il l'a envoyé à 300, tac, ça va dans les spams tout de suite. Alors que c'était une communication très importante. Ma lettre de nouvelles, par exemple, je l'ai envoyée à beaucoup de monde. Plein de gens l'ont reçue dans les spams. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé à 500 frères à la fois. 500 frères à la fois, c'est normal, c'est comme Jésus, quand il était ressuscité, il s'est montré à 500 frères à la fois. Hein. Donc, vous voyez, anti-spam, pour que vraiment les choses qui sont des virus mauvais, destructeurs dans nos vies soient anéanties par le Seigneur. Pour que les spams qui viennent remplir nos vies chrétiennes, les spams spirituels que l'ennemi, que des frères, parfois aussi ça arrive, sans le vouloir, nous envoient des spams spirituels, des choses qui servent à rien, des choses qui encombrent nos vies, des choses qui nous fatiguent, des choses qui nous pompent l'énergie dans nos vies. Ce sont des spams spirituels que l'ennemi ou que d'autres nous envoient, des fois avec une mauvaise intention, de nous plomber. Il y a des petits démons qui sont bien doués là-dedans. Parfois sans mauvaise intention, juste des choses même bonnes, mais qui viennent remplir notre vie. Hein? C'est des spams, ce sont des spams qui viennent envahir nos vies, qui ont toutes sortes de noms, avec de bonnes ou de mauvaises intentions. Et la prière d'invocation, Seigneur, Seigneur, donne-moi ton antivirus, le tien. Donne-moi ton anti-spam, le tien. En plus, j'ai noté, c'est gratuit, facile à installer, mais comme pour l'informatique, n'oubliez pas les mises à jour périodiques. Hein? Avec le Seigneur, c'est comme ça. C'est gratuit, c'est pas comme dans l'informatique. C'est facile à installer, plus facile, il y a juste à dire Seigneur, fais-le dans ma vie. Hein? C'est ça. Vous voulez télécharger un logiciel anti-spam ou antivirus du Seigneur, dites Seigneur, c'est la prière de nouveau, c'est une prière. Seigneur, ton antivirus, ton anti-spam, installe-le en moi. Pas plus compliqué que ça, c'est gratuit, facile à installer. Mais il y a besoin de mise à jour. Il faut refaire cette prière. Et il faut la refaire. Et il faut la refaire. Et Dieu a besoin qu'on soit devant lui régulièrement avec ses prières. Scanne-moi, défragmente-moi, anti-spam-moi. Antivirus, moi. Et je vous dis des drôles de choses, ça. Mais vous avez compris. Quatrième piste pour une prière renouvelée et une prière différente. Vous voyez, je ne suis pas très classique dans mon enseignement sur la prière. Mais j'espère que ça veut vraiment vous donner des idées pour renouveler votre vie de prière. La sauvegarde des fichiers importants. Je pense que vous êtes tous arrivés d'avoir un bon dossier, bien avoir travaillé, appuyé sur une mauvaise touche avant de l'avoir enregistré. Et c'est fichu. Ou alors, des dossiers très importants, bien enregistrés, mais en crash du disque dur, ils n'ont pas été sauvegardés sur un autre disque, ou sur Internet, sur le cloud, n'est-ce pas? Et ces fichiers importants sont perdus. Alors j'aimerais vous poser une question, de nouveau pour vous faire participer ce soir. Répondez pas tout de suite, gardez-le dans votre corps. Si je vous demandais ce soir, dans votre ordinateur spirituel, dans votre vie, ce soir, si vous ne pouviez que choisir deux ou trois fichiers importants à sauvegarder, qui ne soient jamais détruits, lesquels seraient-ils? Seigneur, donne-moi le discernement des choses vraiment importantes dans ma vie, à garder, à protéger, à sauvegarder. Est-ce que c'est le porte-monnaie que j'ai perdu, ma carte d'identité? Ma carte, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas toutes les cartes que j'avais dedans, mes tickets de métro, mon argent, est-ce que c'était très important ça? Si vous aviez deux, trois fichiers que vous pourriez mettre à l'abri du coffre-fort, dans le coffre-fort de Dieu, dans ça Seigneur, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que tu le protèges, que tu le gardes pour moi. Réfléchissez encore personnellement. Quoi d'autre encore?
L'amour de Jésus.
Quelque chose de plus caractère.
Oui. Oui. Donne un exemple. Le mariage. Voilà. Des choses comme ça que j'attendais. L'amour de Jésus, l'amour du prochain. Vous êtes, c'est super. Je vous dis, vous êtes tellement spirituel à voir. C'est ça que je voulais. Mon mariage. C'est une chose, Seigneur, que je te demande de garantir dans ton coffre-fort. Quoi d'autre? Ma foi, ma relation à toi. J'ai entendu. Les enfants, mes enfants. On est déjà plus que. On arrive à 3-4, hein, je dis 3-4. Vous voyez, ma relation à toi, mon mariage, mes enfants. Eh bien, pour combien de choses qui viendraient à la 23e ou à la 30e place, je me fais du souci. Je m'épuise pour ces choses. Je me fatigue. Je me fais du mal. Je fais du mal à mon conjoint. Je fais du mal à mes enfants. Je fais du mal à l'Église. Pour des choses qui seraient peut-être en 23 ou 24e place. Et je pense que c'est important de faire vraiment cette prière sérieusement. Sauvegarde les fichiers importants. Je ne peux pas tout sauvegarder. Dieu peut, bien sûr, dans l'absolu. Mais dans ma prière, ça c'est une prière d'intercession. Vous voyez, on n'est plus dans la prière scandisque, on est dans la prière d'intercession. Pourquoi est-ce que je veux vraiment me battre, Seigneur Saint-Esprit, avec mes balbutiements, quand tu viens prier en moi, qu'est-ce que j'ai envie que tu fasses avec le Saint-Esprit de ma vie, quand elle est devant toi, de ce que vraiment, de vraiment, de vraiment, j'aimerais que tu protèges. Et donc je vais m'engager aussi, moi, à garder ce que tu veux que je garde, parce que tu me l'auras montré. Parce que je sais que tu es venu chez moi, avec le Saint-Esprit, prier pour ça, pour mes enfants, pour mon mariage. Donc pour ça, je vais me battre aussi. Parce que tes anges viennent camper sur ces sujets-là. Donc ça, c'est précieux pour moi. Donc je vais investir là, plus que sur l'ordinateur ou la télévision. Si je peux sauver une relation avec mon enfant, si je peux sauver une relation avec mon épouse, peut-être que même si je perds mon métier, c'est peut-être moins important que ça. Si j'ai deux, trois choses que je peux garder. Et cette prière, on est invité à la faire. Seigneur, pour ma famille, pour mon amour, pour la vérité que tu me donnes, pour ta vérité plutôt que toutes les vérités du monde. Ça, c'est des choses que j'ai envie que tu couvres de ta prière, Saint-Esprit et Père, quand vous venez prier en moi. Sauvegarde les fichiers importants. Cinquième et dernière parabole informatique, c'est la suppression des fichiers. Avant, c'était pour sauvegarder, là, c'est le contraire. C'est la suppression des fichiers temporaires ou la suppression de l'historique. Oh là là, qu'est-ce que tu vas me dire, Seigneur, là, sur la prière? Supprimer l'historique de ma vie, supprimer les fichiers temporaires. Vous savez, c'est la fameuse touche del, delete. Delete, delete. C'est delete qu'on dit, hein? Delete. Oui, ils sont compris. Delete. Bon, la touche delete. Hein.
Effacement.
C'est quoi cette touche sur votre ordinateur intérieur? Est-ce que vous avez une touche à quelque part où le Seigneur peut appuyer? Est-ce qu'il peut supprimer des choses dans votre historique? Est-ce qu'il peut supprimer des fichiers qui n'étaient que temporaires? Quelle est cette touche? C'est le pardon. Donc beaucoup de dimensions. Il y a des choses dans ma vie qui ont été temporaires, elles ont été vécues vraiment. Mais l'extraordinaire, la chose de Dieu, c'est qu'en appuyant sur la touche « Je te pardonne », il déclare que ces choses qui pourraient être définitives sont temporaires. Ce sont des fichiers temporaires et sont même des fichiers temporaires effaçables et même effacés. Vous voyez ? Une chose qui pourrait ne jamais être un fichier temporaire, qui se pourrait être un fichier définitif, parce que je me suis énervé, parce que j'ai fait une connerie, une bêtise, parce que j'ai péché, ça pourrait être un fichier définitif dans ma vie et dans la vie des autres. Non seulement ça peut devenir un fichier temporaire,
mais ça peut devenir un fichier temporaire qui est effaçable, et ça peut même devenir un fichier temporaire, effaçable, effacé, disparu. On est quand à la grâce de Dieu, cette prière, vous pouvez, dans la prière, vous pouvez dire à Dieu ce que j'ai fait là, delete, effacé, disparu. Vous savez qu'avec l'ordinateur, ça ne marche jamais. Ça n'est jamais détruit. Ça n'est jamais disparu. C'est toujours dans le disque dur. C'est simplement écrasé, aplati. Mais un informaticien, si vous avez une fois, si vous faites une connerie, vous avez beau effacer tout ce que vous avez regardé sur Internet, les services renseignements généraux vont vous prendre votre ordinateur et vont retrouver les choses. Ça ne disparaît jamais. Et avec le Seigneur, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça disparaît. Vraiment. Le Seigneur, lui, fait disparaître vraiment des choses, comme si elles n'avaient pas eu lieu. Il peut réparer les conséquences. Il y a des conséquences. Il peut réparer. Il peut devenir un avenir et une espérance, une touche extraordinaire. Et pas seulement le pardon pour moi, ce que j'ai fait, mais le pardon des autres. Donc le pardon aussi que j'ai à accorder, moi, aux autres qui m'ont fait du mal. Et que moi-même, parce que ça, le Seigneur ne va pas le faire à ma place. Dans ma vie, les conneries que j'ai faites, je ne peux rien faire, juste accueillir le pardon de Dieu. Par contre, les autres qui m'ont fait du mal, Dieu ne peut pas me l'enlever si je ne pardonne pas. Ce n'est pas Dieu qui va appuyer sur la touche delete du mal que les autres m'ont fait pour eux-mêmes. Le mal qu'ils m'ont fait, ils peuvent en être pardonnés. Parce qu'ils demandent à Dieu, même si moi je ne leur pardonne pas, ils sont comme moi au bénéfice du pardon de Dieu. Mais le mal que les autres m'ont fait à moi, Dieu n'a pas appuyé sur la touche delete. C'est moi qui peux, parce qu'on a appuyé sur la touche delete pour mon péché, j'ai la responsabilité, comme nous appuyer. Comme on m'a appuyé sur ma touche delete, j'ai à appuyer aussi sur la touche delete pour que les autres soient pardonnés. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est ma responsabilité. Alors ça aussi, ça peut être une bataille dans la prière avec cette touche delete. Seigneur, viens, viens effacer, viens faire disparaître les mauvais fichiers dans ma vie. Viens faire disparaître dans l'historique telle ou telle chose. Grâce merveilleuse, il le fait sans que j'insiste. Mais il peut aussi prier avec le Saint-Esprit pour faire remonter en moi le Père et le Fils qui vont me dire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont dire, mais Florian, toi aussi on aimerait prier pour que toi tu appuies sur la touche delete pour le mal qu'on t'a fait, parce que toi seul le peux. Et Dieu ne va jamais le faire à notre place. Donc vous voyez, il y a des choses qui prient en nous et qui effacent. Ça, ils n'ont pas beaucoup de peine, Saint-Esprit, pour accorder le pardon à Jésus, parce que Jésus a payé. Mais je crois que des fois, ils doivent faire des grosses réunions d'intercession où c'est difficile. Non pas pour que le Christ accorde son pardon sur la croix, il l'a fait pour tous, mais pour que nous, dans nos résistances, pour que dans nos résistances, nous cédions et que nous puissions accorder le pardon et accorder aux autres la suppression des fichiers historiques, qu'ils soient balayés, balancé. Et avec le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons, eh bien, acceptons de faire delete dans la vie des autres, comme nous-mêmes, nous avons bénéficié de cela. Touche extraordinaire. Et il ne reste rien. C'est le vrai pardon de Dieu pour un vrai recommencement. Vous vous souvenez, quand on a passé le témoin entre les rives et les billots, j'étais venu avec la croix suisse, la pub de Swissair. Notre croix, un atout de choix. Eh bien, pour pouvoir vivre vraiment cette prière intérieure du Saint-Esprit, c'est la croix qui nous amène vraiment cet atout de choix, qui nous permet de pardonner comme nous sommes pardonnés. Voilà, on arrive à notre troisième partie, après quelques versets bibliques, après quelques pistes qui, j'espère, vous aideront à travailler des prières différentes et à pratiquer ce scan disque, cette touche delete et toute cette conservation des fichiers importants, sauvegarde, etc. J'aimerais vous lire trois citations de Lynn Payne qui sont un petit peu complexes, que je vous lirai très lentement, deux fois, et puis on fera un temps de silence après. Je vous invite vraiment à recevoir. Je pense que Lynn Payne est une femme qui a bien plus que moi, justement, c'est pour ça que je prends ces citations, qui a connu quelque chose de cette prière en communion profonde avec la Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans son livre, elle nous partage quelques touches de cette attitude de prière, qui n'est pas juste prier, intercéder, prier, louer, etc., mais qui partage plutôt son cœur de dialogue avec Dieu. Comment est-ce qu'elle dialogue avec Dieu? Et je pense que c'est vraiment une dimension qui peut, pour terminer notre soirée, vraiment nous ouvrir à cette relation avec Dieu différente, plus profonde. Elle nous parle déjà du matin. Comment elle commence sa journée? Elle nous propose une prière pour le matin. Une attitude plutôt intérieure. Linpen dit ceci. La première tâche, chaque matin au réveil, consiste à repousser ce qui vous assaille comme des animaux sauvages. À les repousser tous pour pouvoir écouter une autre voix. Adopter un autre point de vue, permettant ainsi à une vie plus vaste, plus forte, plus paisible d'entrer en vous, de prendre possession de vous. Voilà comme elle décrit ça, son entrée en relation avec Dieu. C'est une prière extraordinaire, vous voyez. Ça contient le scan disque, ça contient tout ce que je vous ai dit avant. Je vous le redis. La première tâche, une proposition de prière pour nous. Chaque matin on réveille, première chose, eh bien repoussons tous ces animaux sauvages qui sont là prêts à nous assaillir dans la vie. Repoussez-les tous pour pouvoir entendre et écouter une autre voix qui vient à vous, qui va vous permettre d'adopter un autre point de vue, un point de vue différent sur la vie, qui permette ainsi de recevoir et d'accueillir pour cette journée une vie beaucoup plus vaste, plus forte, plus paisible, et que cette vie entre en vous et vous pénètre. On va un peu plus loin dans la journée, si vous le voulez bien, et on va parler que dans la journée, eh bien, on prend des coups, il y a des blessures. Alors elle nous dit, voilà comment elle pratique la prière, la relation à Dieu dans la journée. Pour guérir nos êtres courbés dans la vie, et pour pouvoir être réellement redressé en Christ, gardons les yeux fixés sur Dieu. Dans cette position, debout pour Dieu, nos bras se tendent vers le Père, nos mains s'ouvrent pour recevoir de lui ce qui est bon. Nos oreilles peuvent alors accueillir les paroles de Dieu. Et nous nous retrouvons ainsi désormais dans une liberté d'écouter et d'obéir. Un état, une attitude où nous découvrons la guérison, l'épanouissement dans la vie et enfin notre vraie identité. Je vous relis une deuxième fois cette parole pour la journée. Pour guérir nos êtres courbés et pour pouvoir nous redresser, nous tenir debout en Christ, gardant les yeux fixés sur Dieu. Dans cette position, nos bras alors peuvent se tendre vers le Père, nos mains s'ouvrir pour recevoir ce qui est réellement bon. Nos oreilles peuvent accueillir la parole de Dieu. Nous nous retrouvons désormais avec une liberté, une responsabilité d'écouter, d'entendre et d'obéir. Un état où nous nous découvrons dans la guérison, l'épanouissement, notre vraie identité. Et pour le soir, en fin de journée, une prière à l'Esprit-Saint. Seigneur, envoie-moi le feu de ton esprit pour faire fondre tout bloc de glace qui m'a figé dans une position de non-devenir en toi. Toute courte celle-là, mais c'est une belle prière à faire à la fin de chaque journée. Seigneur, envoie ton feu sur moi, le feu de ton esprit, pour faire fondre tout bloc de glace qui resterait en moi, qui m'a figé dans une position de non-devenir en toi. Seigneur, fais fondre toute glace en moi. Amen.